VOA Afrique, le monde aujourd'hui. À Washington.
Chères auditrices, chers auditeurs, bienvenue à l'écoute de votre émission quotidienne. À votre avis, Nathalie Barge, pour vous accompagner dans ce débat sur VOA Afrique. Le HCR a rapatrié des réfugiés centrafricains qui étaient en République du Congo pour la première fois depuis le début du conflit en 2013. En Afrique, les pays qui accueillent le plus de réfugiés sont l'Ouganda, l'Éthiopie, la RDC et le Kenya. Et le plus grand nombre de déplacés internes se trouve au Soudan, au Nigeria, au Soudan du Sud et en RDC. Que faire pour qu'ils puissent rentrer chez eux? Comment régler la situation de ceux qui ne souhaitent pas rentrer? Quelle cohabitation avec les autochtones? Ce sont les questions qui vous ont été posées sur le Facebook de VOA Afrique. Un grand merci pour y avoir répondu, donc avoir laissé vos commentaires. On va continuer cette discussion en direct maintenant en appelant certains d'entre vous donc pour participer à ce débat avec un rappel de quelques chiffres, notamment dans le monde. Environ 70 millions de personnes dans le monde étaient déplacées contre leur gré en 2017, un chiffre record qui montre l'ampleur du déracinement sous la pression des conflits, notamment des violations des droits humains et des catastrophes naturelles. Autrement dit, chaque minute, 20 personnes fuient leur foyer. Donc c'est pas rien. La plupart des personnes déplacées se trouvent en Colombie. En Colombie, 7,4 millions de déplacés, avec 50 ans de guerre civile, avec les FARC, les milices, les narcotrafiquants, etc. On a la Syrie qui suit juste derrière avec 6,3 millions de déplacés, où la guerre civile a déplacé depuis plus de 5 ans plus de la moitié de la population à l'intérieur et à l'extérieur du pays. Ensuite vient l'Irak avec 3,6 millions de déplacés. Et on a la RDC, le Nigeria et le Soudan qui ont chacun 2,2 millions de déplacés. Le Soudan du Sud vient ensuite avec 1,8 millions. Donc pour ces quatre seuls pays africains, on a plus de 8 millions de personnes qui ont dû fuir donc leur foyer. Et ensuite, on a le cas des réfugiés. Ça, c'était les déplacés. Donc les réfugiés, c'est la Syrie qui est en tête avec 5,5 millions. Et pour donner un exemple un petit peu de l'ampleur de ces mouvements de population, par exemple, le Liban accueille 1,5 million de Syriens, soit le tiers de ses habitants. Et en Afghanistan, c'est 2,5 réfugiés. Soudan du Sud, 1,4. Somalie, 1 million. Et ensuite, on passe en dessous du million, mais avec le Soudan, la RDC, la Centrafrique, le Burundi et l'Érythrée. Voilà, ça c'est des chiffres qui font froid dans le dos, mais c'est une réalité que nous vivons tous. Nous avons quelqu'un en ligne. Tidiane Botegueba à Douala. Bonsoir Tidiane. Allô, allô. Tidiane, est-ce que vous m'entendez? Tidiane ne m'entend pas apparemment. On va essayer de le garder quand même pour l'avoir plus tard. Il avait noté, notamment, il avait mentionné sur notre Facebook que c'était bien sûr, on l'a tous compris, on le sait, une question de sécurité. Nous avons Archiduc Théodore en ligne.
Oui, bonsoir à tout le monde et bonsoir à la voix de l'Amérique.
Bonsoir Archiduc, comment allez-vous?
Oui, je me porte très bien, et vous?
Ça va très bien, merci beaucoup. Je vous rappelle le sujet. Que faire pour que les personnes réfugiées puissent rentrer chez elles? Et comment régler la situation de celles qui ne souhaitent pas rentrer? Une autre question auquel vous aurez peut-être quelque chose à dire. Quelle cohabitation avec les autochtones?
Oui, les réfugiés d'abord ont quitté leur pays. Pour des raisons de crise, que ce soit la crise sociale, la crise due à la sécheresse, à la guerre et les conflits interarmés. Alors, pour que ces derniers retournent chez eux, il faut absolument résoudre cette crise-là, afin que la stabilité leur règne dans leur terre natale, d'autant plus que sans la stabilité, ceux-là auront la peur et c'est difficile de retourner. Mais il y a certains qui, de par les guerres, par exemple, ont connu des moments atroces. Une famille où on a tué le père, on a tué la maman et c'est seulement les enfants qui restent. Alors, ces enfants considèrent leur pays généralement comme un enfer et ils ne veulent pas y retourner pour ne pas se rappeler de la mort de leur père ou bien des situations difficiles qui ont suivi. Et certains peuvent même changer de nationalité. Alors, pour moi, je souhaite à ce qu'on les guide. Si jamais, par exemple, un réfugié centrafricain vient au Tchad et qu'en Centrafrique, il avait vécu des moments difficiles, s'il veut avoir la nationalité tchadienne et qu'on considère cette personne-là comme normale, c'est mieux de l'attribuer cette nationalité-là afin qu'il ait la paix chez soi. Et puisque nous sommes tous réfugiés sur la terre, et quiconque peut avoir la nationalité dans laquelle n'importe quel pays, si seulement si cette personne se laisse guider par la droite, sur une personne honnête et sincère. Et aussi, l'accueil de la population de la zone haute est très important. Un réfugié qui, par exemple, vient dans une localité, s'il est bien accueilli, il trouve la paix sur cette terre, et cette terre est considérée comme sa deuxième terre natale. Il peut vivre là jusqu'à sa mort. Et c'est une très bonne chose. La familiarisation vient aussi y appuyer.
Un grand merci, Archiduc, pour votre point de vue, pour votre analyse sur cette question. On peut rappeler notamment donc la nouvelle dont je parlais tout à l'heure, dans le nord de la République du Congo. Donc ces réfugiés, il y a un camp de réfugiés qui s'appelle le camp de Bétou, et c'est dans le département de la Likwala. Et donc 100 Centrafricains sur les 6000 qui résident dans le camp ont été donc rapatriés. Alors dans les prochaines semaines, le HCR prévoit de faire revenir 600 Centrafricains qui veulent rentrer chez eux. Et chaque réfugié, enfant ou adulte, recevra une somme d'argent pour sa réinsertion. Il y a en République du Congo plus de 32 000 Centrafricains qui ont fui la guerre à partir de 2013. Et du côté donc centrafricain de la frontière, le convoi, donc ce convoi des 100 personnes, a été accueilli par le ministre de la Sécurité, Henri Gonzet, qui a appelé, je cite, ceux qui occupent illégalement les terres et les maisons des rapatriés à les libérer. Ça, c'est un sujet très délicat, un sujet récurrent dans beaucoup de régions, dans beaucoup de zones. On se retrouve dans ce genre de situation. On quitte la maison à cause de la guerre ou autre. Et quand on revient à la maison, quelqu'un habite chez nous. Alors, les Centrafricains ont dormi dans la province de la Lobaye, dans le sud-est de la Centrafrique, avant de poursuivre leur route vers leur village. On a un autre auditeur en ligne. On a Tidiane en ligne, donc. Tidiane Botegueba, au Mali. Est-ce que vous m'entendez maintenant, Tidiane?
Oui, bonsoir, Madame Nathalie. Je vous reçois actuellement très bien. Bonsoir à vous, ainsi qu'à tous les auditeurs de la VOA. Je vous appelle de Douala.
Merci beaucoup, Tidiane. On vous écoute sur le sujet, donc des réfugiés, des personnes déplacées.
Oui, en tout cas, moi je pense qu'avant vraiment de forcer ou bien de demander vraiment de se refuser de rentrer dans leur pays respectif, il faudrait avant tout, à mon avis, vraiment instaurer d'abord la sécurité, la paix, la stabilité vraiment de leur pays. Parce que si je prends l'exemple de la République centrafricaine ici, malgré que le départ de Michel Djotodia, et aussi malgré vraiment l'élection de Faustin Touadéra comme le président de ce pays, mais jusqu'à présent, vraiment la sécurité, tant voulu, n'est pas totalement rétablie, parce que jusqu'à présent, les groupes armés vraiment règnent
dans certaines zones. Oui, Tidiane. Donc, en fait, vous pensez que c'est trop tôt, qu'ils ne devraient pas rentrer. Mais si ces gens, si ces personnes, parce qu'en fait, c'est comme ça que ça s'est passé, ces personnes ont vraiment manifesté donc le désir de rentrer chez elles. Est-ce que, selon vous, on peut les empêcher de rentrer si vraiment elles souhaitent rentrer chez elles?
Non, là, c'est, à mon avis, aussi, c'est anormal. Si ces personnes ont décidé, qui ont décidé vraiment de quitter leur pays, donc si aujourd'hui, vraiment, ils décident de rentrer dans leur pays, en tout cas, moi, je ne vois pas le problème de les empêcher. Donc, parce que ce sont des personnes qui ont décidé de quitter ce pays. Donc, si aujourd'hui, ils décident de rentrer, en tout cas, je ne vois pas le problème, madame Nathalie.
Merci beaucoup, Tidiane. Et puis, de toute façon, hein, heureusement, on va le dire, ce ne sont pas toutes les régions qui sont touchées par la violence armée. Hein. On a encore des régions, on ose l'imaginer, qui vivent de manière pacifique. On espère, en tout cas, pour les populations centrafricaines, et on espère que ça va s'arranger. On a le commentaire de Brahima Doumbia qui lui a dit qu'il faut des solutions durables. On va sans doute le joindre par téléphone parce qu'il va nous parler donc de ses suggestions à propos de solutions durables. Patrick Mbouliki Tangar, lui, est en RDC à Lubumbashi. Il a écrit sur notre Facebook « Il n'y a pas de solution miracle pour que ces réfugiés rentrent dans leur pays respectif. D'un côté, il faut que chaque pays s'engage à recevoir ses compatriotes et de l'autre, le HCR doit mettre les moyens conséquents pour matérialiser ce projet. Au-delà de tout, les dirigeants africains doivent travailler pour le compte de leur population, notamment la redistribution équitable des biens nationaux pour éviter les conflits qui provoquent ces déplacements de population. » C'est le commentaire de Patrick Mbouliki Tanga qui est à Lubumbashi, que j'aimerais bien que nous puissions joindre. Et nous avons en ligne Steve Boko. Steve Boko qui est en Côte d'Ivoire. Bonsoir Steve.
Oui, bonsoir la journaliste.
Comment allez-vous?
Oui, je vais très bien.
On vous écoute.
Bon, mais pour moi, je pense que chef d'État doit les nationaliser, hein, parce que même si on ne les nationalise pas, on doit chercher à ce qu'il faut quelque chose dans le pays que de les rapatrier. Ça fait, en tout cas, l'Afrique c'est une métropole où chacun doit chercher à quoi chose sur le développement de notre divers pays. Ouais, si nous les rapatrions, cela fait, c'est sous forme d'une méchanceté d'une part. Donc pour cela, je souhaiterais qu'on les on les cherche du boulot ou on essaie de les nationaliser pour qu'ils essaient d'accroître leur devise économique. Sinon, rapatrier, c'est un peu méchant de ma part.
Et est-ce que vous avez des exemples à citer, par exemple, par rapport à la Côte d'Ivoire, de personnes déplacées notamment, et même réfugiées, hein?
Oui, les réfugiés allemands, certains sont partis faire en Allemagne. Quand ils sont arrivés, le ministre de l'Emploi les a cherchés de quoi faire dans le pays. Donc, je pense très bien que ces réfugiés doivent être aussi encadrés par nos autorités. Parce que si les migrants viennent dans notre pays, ils accroissent encore nos devises économiques. Vous voyez, certains des nationaux même ne veulent rien faire. C'est à travers les migrants que nos économies s'accroissent. Par exemple, pour ne pas trop citer les noms, les pays voisins qui sont auprès de la Côte d'Ivoire. Si eux viennent en Côte d'Ivoire, c'est eux qui accroissent nos devises économiques. Vous voyez. Et si nous les chassons, les propres, c'est-à-dire, nous, Ivoiriens, nous ne pouvons pas travailler, nous ne voulons pas travailler. C'est eux qui travaillent, qui accroissent nos devises. Donc, on doit essayer de les nationaliser ou les chercher de quoi faire en vue de pouvoir faire sortir la fille de son état de sous-développement.
Merci beaucoup Steve pour votre point de vue sur la question de l'immigration, des réfugiés, des personnes déplacées à l'intérieur des frontières. On a le commentaire de Sadou Karidjo Ibrahim qui est au Niger. Donc il dit: au Niger, nous accueillons des réfugiés maliens et nigérians depuis 2012. Le gouvernement du Niger et le HCR enregistrent et protègent les réfugiés, dit-il. Pour ceux qui ne veulent pas rentrer chez eux, il y a les solutions durables comme l'intégration locale ou la réinstallation. Donc ça rejoint un petit peu ce que disait Steve. Mais la solution privilégiée est le rapatriement volontaire ou de masse lorsque le pays d'origine retrouve la la paix et la sécurité, ce qui n'est pas tout à fait le cas effectivement en Centrafrique, comme l'a fait remarquer un de nos auditeurs. De même, poursuit-il, que les conflits intercommunautaires et les attaques armées ont entraîné des déplacés internes dans la région de Tillabéri. Donc il parle de son pays. Récemment, ces déplacés existent aussi à Diffa, avec la situation créée par Boko Haram. Donc ça, c'est Sadou Karidio Ibrahim, qui est au Niger, qu'on peut essayer de joindre également. On a un autre auditeur en ligne, Yao Marcelin, en Côte d'Ivoire, à Abidjan. Bonsoir.
Bonsoir Nathalie, et bonsoir à tous les auditeurs de la Vie Afrique.
Comment allez-vous?
Je vais très bien, Nathalie.
On vous écoute.
Ok, merci. Bon, en ce qui concerne les réfugiés, vraiment, c'est un problème délicat en Afrique. Les réfugiés, souvent, on ne crée pas les conditions pour un retour bien assuré des réfugiés. On leur dit de rentrer, pourtant, il n'y a rien qui est prévu au pays de départ. Le gouvernement ne fait rien pour vraiment essayer de les réinsérer dans le tissu social, voire même professionnel. Parce que ce sont les gens qui ont tout délaissé, parce que ce n'est pas évident qu'ils retrouvent encore leurs biens qu'ils ont laissés. On est parti, on est fui. Donc, il faudrait que le gouvernement de départ, c'est-à-dire que le gouvernement du pays d'origine, vraiment, quelles les conditions pour un retour vraiment en toute quiétude et en toute sécurité. Je ne veux pas de leur dire de rentrer, parce que parmi eux, il faudrait que le rapatriement soit volontaire, qu'on demande quels sont ceux qui sont volontaires pour rentrer. Mais il ne faut pas les forcer à partir. Vraiment, si rien n'est prévu au pays, mais il ne sera rien de rentrer et ne rien à avoir pour ne pas à nourrir sa petite famille. Ça, c'est un véritable problème que vraiment je soulève, vraiment auquel vraiment le gouvernement doit s'atteler. C'est-à-dire qu'il faudrait une action conjointe entre le RACR et le gouvernement de dépasser le gouvernement du pays d'origine, quoi, je veux dire. Il faudrait qu'il y ait une certaine synergie entre ces deux entités-là pour pouvoir favoriser un retour vraiment typique des réfugiés. Par contre, aussi, il y a la cohabitation aussi entre les réfugiés et les autochtones. Parce que les réfugiés, souvent, qui ont du mal à se soumettre aux lois du pays d'accueil. Ça aussi, c'est un fait qu'il faut relever. Mm-hmm. Quand vous êtes accueilli dans un pays tiers, il faudrait se soumettre aux lois de ce pays-là. Et des réfugiés qui se comportent comme rebelles. Et ça, c'est déplorable. Vous êtes à l'extérieur et vous comportez comme des gars. Certains qui sont enrôlés dans certains mouvements, dans certains groupes de milices. On a vu des cas peut-être en Ouganda et ceci. Il y a des gens qui se sont fait enrouler, étant des réfugiés, et ça, c'est pas normal. Donc, vous n'êtes pas un territoire, vous êtes à l'extérieur, pour ne pas s'y soumettre aux lois de ce pays-là.
Merci beaucoup, Yao Marcelin Kofi, un grand merci. Un auditeur a parlé tout à l'heure de la situation à cause de Boko Haram, notamment au Niger. Alors il faut savoir que depuis lundi, plus de 1200 civils déplacés dans le nord-est du Nigeria sont rentrés à Bama. 4 ans après la destruction de la ville par les djihadistes, dans le cadre d'un programme de retour lancé par les autorités. Et le ministre de l'information du Borno, Mohamed Boulama, a dit qu'il voulait faire revenir plus de 100 000 personnes à Bama dans les mois à venir, dans le cadre donc de ce programme de reconstruction, réinstallation et réhabilitation organisé par l'État de Borno. On a un autre auditeur en ligne. Diarra Kanyoumé.
Oui, bonsoir Nathalie, bonsoir tous les plateaux de VO Afrique.
Bon.
Je vous appelle toujours dans mon village natal.
Bonsoir, on vous écoute, à vous la parole.
Ok, merci de me donner la parole. À mon avis, je pense que vraiment aujourd'hui, pour lutter contre cette fléau, il faut que nos dirigeants africains prennent leurs responsabilités. Parce que par rapport à la crise politique, c'est les réfugiés qui sont en train de diviser au moins plusieurs pays en Afrique. Sinon, avant, l'Afrique ne connaît pas la guerre, l'Afrique ne connaît pas les réfugiés. Mais si tu as vu que les réfugiés ont débordé dans les pays différents en Afrique ici, c'est pour cela que non, à cause des guerres, à cause des crises politiques, non.
Brahima, vous avez parlé de solutions durables. Vous avez une suggestion à faire, par exemple, pour une solution durable?
Oui, effectivement, pour avoir la solution durable, il faut que non, les États africains vraiment doivent prendre leurs responsabilités pour prendre la population en charge et pour que non, la guerre n'a qu'à finir en Afrique, partout dans le monde. tant que la guerre n'est pas finie en Afrique ou bien dans le monde entier, je pense que vraiment les réfugiés ne peuvent pas finir dans le monde. Donc les HR ne peuvent pas prendre et tout en charge. Il faut imaginer, ils ont beaucoup d'hommes, ils ont beaucoup de personnes qu'ils doivent accueillir, mais si ils n'ont pas moyen pour accueillir plusieurs réfugiés. Donc je pense que vraiment, ça donne au moins un problème dans les pays différents aussi. Ça joue sur les économies dans les pays différents qui recueillent au moins les réfugiés. Donc je pense que vraiment, il faut que non, tout le monde doit prendre leurs responsabilités pour que non, la guerre n'a pas fini en Afrique. Sinon, Nathalie, à mon avis, je pense que vraiment, en tant que la solution n'est pas trouvée, les réfugiés ne peuvent pas finir en Afrique, à mon avis.
Merci beaucoup pour votre réflexion. On prend un autre auditeur en ligne, Hassan.
Oui, bonsoir.
Bonsoir, on vous écoute.
Moi, ce que j'aimerais dire, c'est conclure et dire et souvent, on cherche des solutions pour les conséquences, par exemple, les réfugiés, les déplacements de population, soit local, régional ou à travers international. Le problème, c'est de trouver les causes qui entraînent tout cela. Ce qui est le plus, c'est souvent les problèmes politiques, la corruption. Il y a un ensemble d'éléments qui sont assignés, donc il faut essayer de combattre les causes et de chercher des conséquences, à soigner des conséquences. Voilà ce que je voulais dire.
Merci beaucoup. Plutôt les causes que les conséquences de la part de Hassan. C'est bien entendu, on peut rappeler que le haut commissaire aux réfugiés de l'ONU, Filippo Grandi, a débuté mercredi une visite en RDC où les autorités accusent l'ONU et les ONG d'exagérer la crise humanitaire. Alors après Kinshasa, il devait se rendre notamment dans l'est du pays pour évaluer la situation humanitaire et rencontrer des réfugiés et déplacés. Et le gouvernement congolais, on le rappelle, refuse de participer à la prochaine conférence des donateurs. Il affirme qu'il sera accordé 100 millions de dollars d'aide humanitaire dans 3 provinces. Alors bien entendu, dit-il, 100 millions de dollars par rapport au milliard qui est exigé, ce n'est peut-être pas suffisant, mais le gouvernement agit avec la politique de ses moyens, a déclaré le ministre des Affaires étrangères, ajoutant que la RDC n'était pas fermée aux contributions internationales de partenaires. La RDC comptait 4,5 millions de déplacés internes au 31 décembre 2017 selon l'ONU, mais fin mars, Kinshasa a estimé à environ 230 000 le nombre de déplacés. On a Valentin Guillambé en ligne.
Bonsoir madame, bonsoir.
Bonsoir Valentin, à vous la parole.
Moi je dirais que le problème des migrants sont très précaires parce que toucher les migrants dans leur pays d'origine, c'est pas facile. Il faut voir quand quelqu'un se déplace, si il a de sérieux problèmes dans son pays, voir la sécheresse, voir la famine ou bien la guerre. Ou bien par manque d'emploi que la personne s'est fait migrer. Mais à sa grande surprise, il le demande de revenir dans son pays. C'est pas quand même un problème de revenir dans son pays. Le problème est que est-ce que la sécurité sera garantie ou bien il peut avoir des relations avec des autochtones. Parce qu'au moins que tu le places dans son pays, par le chercher un employeur ou bien possédé par la guerre ou bien par manque d'emploi, une fois revenu ici, est-ce qu'il peut avoir des espaces pour essayer d'y habiter. Et comment avec une nouvelle climat, il peut plus subir et assister encore. Parce que je me suis fait déplacer ce jour pour éviter des problèmes ou bien échapper à une guerre quelconque. Je me demande de revenir. Le problème est que faire revenir les migrants dans leur pays, il faut d'abord assurer leur sécurité. Je prends l'exemple d'un ami qui est un migrant, il est de la RDC, seulement il est chez Nemena. Nous fréquentons ensemble. Il était venu, il a couru derrière les autorités fatiguées pour avoir la carte de réfugié. Finalement, ça n'a pas pu poser deux à trois ans. Et à ma grande surprise, on causait à la fois qu'il me disait lui-même qu'il n'est pas un Tchadien, c'est un Centrafricain, qu'il est un migrant. Actuellement, il est souffrant et son état est très précaire. Mais j'ai dit, est-ce qu'il n'y a pas les parents lui qu'il est un migrant, son papa a été tué. Pas être étudiant en RDC, il est venu avec sa maman, actuellement il est sur tête et qu'il est souffrant. J'ai dit, mais finalement, est-ce qu'actuellement tu as la carte de réfugié? Il m'a expliqué, on a fait presque le bureau d'engagement pour avoir une carte de réfugié pour lui, qu'il soit pris en charge par les autorités. Mais finalement, il n'y avait eu rien.
Valentin, un grand merci pour ce témoignage de votre ami. Je remercie donc la production pour cette émission. Un grand merci aux auditeurs et aux auditrices. À très bientôt. Au revoir.